à tous, bienvenue pour cette troisième rencontre de notre parcours Saint-Paul, l'Église et la Croix. Au cours de la rencontre précédente, nous nous sommes posé la question « Mais au fond, qu'est-ce qui se passe à Corinthe ?» Et nous avons vu que l'Église de Corinthe est traversée par une crise de la parole. Chacun dit, dans tous les sens, une parole qui divise, une parole orgueilleuse, une parole qui se gonfle. C'est aussi une crise de l'ego, où chacun se prend pour quelqu'un en se rattachant à une figure prestigieuse. Au fond, on a l'impression que les Corinthiens ne savent plus qui ils sont et ne savent pas qui sont les autres. C'est aussi finalement une église immature et mondaine, peut-être une sorte de club de Jésus, qui n'a de Jésus que le nom, mais pas l'esprit ni la manière de vivre. Au fond, la crise de l'église de Corinthe semble être une crise de fondation. Comme si l'agitation spirituelle qui anime pourtant cette église, on pense au charisme au chapitre 12, 13, 14 de cet épître, au fond cette agitation spirituelle n'était que de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'épître aux Galates. Que se passe-t-il en Galatie? Nous allons voir que cette église est tentée par l'essoufflement et le repli conformiste. Vous verrez, l'ambiance par rapport à Corinthe est différente, même s'il y a évidemment quelques points communs. D'abord, ce ne sera pas tellement une crise de fondation, mais plutôt une crise de maturité. Une course qui partait bien et qui à un moment est entravée. Ensuite, on verra que cette crise est moins généralisée. Elle est le fait de quelques-uns, certains, comme dit saint Paul. Enfin, la fondation est peut-être celle du confort, du repli sur soi, face à la persécution, de vouloir être reconnu, peut-être d'accommoder l'évangile. Bref, une église à l'épreuve de la fidélité, de l'essoufflement. Une église qui va être tentée d'écouter des sirènes. Une église tentée, menacée par la contamination de quelques-uns. Alors commençons par lire quelques textes. On pourrait dire que ce sont des éléments de la biographie des Galates qui ont été dispersés par Paul dans l'ensemble de la lettre et que je regroupe. D'abord, au chapitre 1, versets 6 et 7, c'est l'ouverture de la lettre, qui commence aussitôt par un reproche, un blâme. Le blâme initial, marqué par l'apostasie et la subversion de l'Évangile. Je m'étonne qu'aussi rapidement, vous vous détourniez de celui qui vous appela dans la grâce du Christ vers un autre Évangile. Qui n'est autre que ceci, il y a certains qui vous troublent et qui veulent subvertir l'Évangile du Christ. Ensuite, au début du chapitre 3, il y a un second blâme, ou plutôt le même blâme est renouvelé, montrant que les Galates vivent un chemin spirituel incohérent. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, ensorcelé, vous sous les yeux de qui Jésus-Christ avait été dépeint, crucifié? Cela seulement, je veux apprendre de vous. Est-ce en raison des œuvres de la foi que vous reçûtes l'Esprit ou en raison de l'écoute de la foi? Êtes-vous à ce point insensé, ayant commencé dans l'esprit, maintenant c'est dans la chair que vous achevez? Avez-vous éprouvé de telles choses en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui donc qui dispense l'esprit et œuvre des choses puissantes en vous, est-ce en raison des œuvres de la loi ou de l'écoute de la foi? Ensuite, au chapitre 4 vient une troisième interpellation, qui montre cette fois-ci que, finalement, les Galates vivent une régression affligeante. Mais alors qu'autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez en esclavage des choses qui, par nature, ne sont pas des dieux, maintenant, ayant connu Dieu, mieux, et en étant connu par Dieu, comment retournez-vous à nouveau vers des éléments sans force et pauvres qu'encore à nouveau vous voulez servir en esclavage? Vous observez des jours, des mois, des temps, des années. Je crains à votre sujet que ce soit en vain que j'ai peiné pour vous. Et un peu plus loin, juste après, il rappelle sa première venue parmi eux, sa première évangélisation, dans un passage très touchant. « Devenez comme moi, dit saint Paul, parce que moi je suis devenu comme vous, frère. Je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que c'est en raison d'une faiblesse de la chair que je vous ai évangélisé pour la première fois. Et l'épreuve qu'était pour vous cette faiblesse dans ma chair, vous ne l'avez ni méprisée, ni cracher dessus. Mais c'est comme un ange de Dieu que vous m'avez accueilli comme le Christ Jésus. Où donc est passée votre béatitude? J'en suis témoin en effet à votre sujet que si vous aviez pu, vous auriez arraché vos yeux pour me les donner. Serais-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Leur zèle pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher, au sens vous détacher de moi, afin que vous soyez zélé pour eux. Il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et pas seulement lorsque je suis présent auprès de vous. Oh, mes petits-enfants, que j'enfante à nouveau à douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Au chapitre 5, Paul fait une sorte de bilan. Il montre finalement que l'itinéraire de l'église de Galate, c'est celle d'une course qui commençait bien et qui a été entravée. Moi, Paul, je vous dis, si vous faites circoncire, le Christ vous sera un avantage en rien. Vous courriez bien. Qui a coupé la route pour que vous ne soyez pas persuadés par la vérité? Votre persuasion n'est pas de celui qui vous appelle. Un petit levain fait lever toute la pâte. Moi, je suis persuadé à votre sujet dans le Seigneur que vous n'aviserez pas autre chose. Celui qui vous trouble supportera le jugement, qui qu'il soit. Moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors il est rendu inopérant le scandale de la croix. Puisse-t-il même se faire mutiler ce qui vous soulève? Vous, en effet, c'est pour la liberté que vous avez été appelé, frère. Et enfin, à l'heure de conclure au chapitre 6, Paul dévoile les intentions véritables de ces certains, de ces fauteurs de troubles. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma main. Ils veulent faire bonne figure dans la chair, ceux-là qui vous contraignent d'être circoncis, seulement afin de ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. En effet, ce ne sont pas ceux qui sont circoncis qui observent la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se vanter dans votre chair. Alors, quelles sont les premières impressions? Tout d'abord, on sent l'urgence. L'heure est grave. Voyez, au début de la lettre, il n'y a pas d'action de grâce. C'est la seule lettre de Paul où Paul ne fait pas une action de grâce. À la fin, il n'y a pas de projet de voyage. Il n'y a pas de détails sur comment il a appris tout cela au sujet des Galates. Non, sa lettre est comme une bouteille jetée à la mer. Allez, débrouillez-vous avec cela, mais faites quelque chose. On a l'impression d'une écriture au vitriol. Parfois, Paul s'emporte. « Aux Galates stupides !» Ou encore, à sujet des adversaires, « Puisse-t-il se faire mutiler, en fait »« Puisse-t-il se faire castrer ?» Ce qui vous pousse à la révolte. Dès le début, avec cette formule du blâme, « Je m'étonne !» Paul ne s'étonne pas du tout, ou plutôt il se moque de « Je m'étonne que si rapidement vous vous détournez de celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ. » On sent l'ironie qui est mordante. Et plus tard, lorsqu'il dit « Cela seulement, je veux apprendre de vous », il y a aussi une petite pointe ironique. Cette urgence, elle apparaît dès le début, lorsque Paul dit que si rapidement vous voulez passer un autre évangile. Ce « si rapidement » n'est pas forcément en lien avec la date de leur première conversion, comme s'ils se sont détournés au bout de peu de temps, mais plutôt la rapidité avec laquelle ils se détournent. Comme si, en peu de temps, il prenait une mauvaise direction. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que tout cela, c'est dû au mauvais caractère de Paul? En fait, je pense que c'est plutôt le cri d'une mère blessée. Et oui, comment se fait-il qu'une course qui commençait bien puisse être stoppée? Paul le dit, est-ce que tout ce qu'ils ont vécu a été vécu en vain? En fait, dans cette lettre, Paul donne une définition peut-être la plus touchante du pasteur, lorsqu'il dit « Oh, petits enfants, que j'enfante à nouveau à douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Paul est comme une mère douloureuse, une mère qui pleure, qui crie, qui hurle peut-être, car ses petits-enfants, les Galates, sont en train de se détourner de Dieu. Alors, quel est le cœur du problème? On le voit dans la formulation, la première qu'on a entendue tout à l'heure. Il s'agit à la fois d'une apostasie, se détourner de Dieu, Dieu qui vous a appelé dans la grâce du Christ, et puis d'un changement d'évangile, pour passer à un autre évangile. Au fond, la crise, c'est qu'il y a comme une sorte de subversion de l'évangile, et comme l'évangile est subverti, eh bien l'appel de Dieu ne se fait plus entendre. Cela nous rappelle que l'évangile est un texte qui appelle. Lorsqu'on affadit l'évangile, eh bien l'appel ne se fait plus entendre. Dans d'autres passages, Dieu, qui ici au chapitre 1 est qualifié comme celui qui vous appelle, est qualifié autrement. Par exemple, au chapitre 3, c'est Dieu est celui qui vous dispensa l'esprit. Et puis au chapitre 4, on l'a vu, Dieu est celui qui vous connaît. Et c'est très intéressant. On peut en conclure que lorsque l'appel ne se fait plus entendre, la vie devient fade. Et alors, Dieu n'est plus celui qui dispense l'esprit. Et on cherche l'esprit ailleurs. Ou alors, lorsque l'évangile ne se fait plus entendre, on n'a plus ce sentiment, cette compréhension, cette perception que Dieu nous connaît. Alors on cherche à être reconnu ailleurs, reconnu par les œuvres, reconnu dans la chair. Bref, lorsque l'appel de l'évangile ne se fait plus entendre, toute la vie chrétienne s'écroule. Le point enfin important, c'est que on l'entend dès cette première apostrophe, eh bien, cette crise de Galatie est l'œuvre de certains, de quelques-uns. On pourrait dire que ce sont des agents pastoraux, peut-être des leaders, soit des croyants de la communauté, soit des croyants de passage, peut-être même des contrôleurs venus voir si l'église de Galatie se porte bien. Qu'importe, ce sont des personnes qui viennent et qui apportent le trouble. Vous rappelez au début de Corinthiens, Paul nomme les gens. Paul, Képhas, Apollos. En fait, s'il les nomme, c'est que le problème n'est pas chez eux. D'ailleurs, il n'y a jamais un reproche qui est adressé à Apollos. Ici, Paul est discret, certain. Mais cette discrétion fait peur. En fait, c'est qu'il va les accuser durement, car le problème, c'est que ces quelques-uns sont en train de contaminer toute la communauté. Et Paul le dira au chapitre 5, un petit levain fait gonfler la pâte tout entière. Alors essayons d'approfondir cette crise de Galatie. D'abord, au niveau de la temporalité, on voit en fait que au départ, Paul présente la crise comme une alternative. Tiens, un autre évangile. On pourrait dire, pourquoi pas passer un autre évangile? Au chapitre 3, Paul les fait réfléchir sur la cohérence de leur cheminement. Ayant commencé dans l'esprit, vous voulez achever dans la chair. En fait, ce n'est plus vraiment une alternative. C'est une alternative qui ne prend pas en compte l'histoire, qui commence incohérente. Et au chapitre 4, c'est bien pire. Il dit, vous voulez retourner à vos anciens esclavages. Ce n'est pas seulement une incohérence, c'est une régression spirituelle. Bref, comme il le dit, c'est une course qui partait bien, une course qui maintenant est entravée, où ils sont en train de chuter, pire même, de régresser. Alors l'autre évangile, c'est quoi cette affaire-là? L'évangile est un thème très important en Galates. Certains disent d'ailleurs que l'épître aux Galates, c'est l'évangile sous enveloppe, l'évangile en format épistolaire. Nous avons vu que c'est dans l'évangile que retentit l'appel de Dieu. On voudrait se demander, mais c'est quoi cet autre évangile vers lequel les Galates sont tentés de se tourner? En réalité, Paul ne donne pas beaucoup de précisions. Certes, il est question de passer de la chair, pardon, de l'esprit à la chair, de passer de la foi à la loi. Et puis deux éléments concrets sont nommés, la circoncision, vous l'avez entendu, et puis l'observance des jours, des mois, des temps et des années. Alors à partir de là, il y a une explication traditionnelle qui est surtout une explication théologique. On a dit au fond, l'autre évangile, c'est un évangile qui ferait passer du salut par la grâce, la foi, l'évangile, à un salut par les œuvres, par l'observance de la loi. C'est par exemple l'explication que donne saint Augustin au début de son commentaire sur les Galates. Je me permets de le citer. Quand en effet la grâce de l'évangile leur eût été annoncé aux Galates, les Galates eurent affaire à des hommes issus de la circoncision qui portait le nom de chrétien, mais qui, ne s'attachant pas encore au bienfait même de la grâce, voulait rester courbé sous ses fardeaux de la loi. Cette explication a sa valeur, mais je pense qu'elle montre davantage un des fruits théologiques de la méditation de la lettre aux Galates plutôt que la raison même de la crise, ce qui animait véritablement les fauteurs de troubles. On remarque d'ailleurs que dans sa réponse, Paul ne pilonne jamais la position des adversaires. Au fond, l'évangile de la grâce, que l'Église va davantage approfondir avec saint Augustin et avec d'autres, et que ce n'est pas dans cette lettre, c'est plutôt un élément de la réponse que Paul apporte. Mais ce n'est pas vraiment la crise. L'évangile, c'est la solution, mais pas tellement le problème. Alors le problème, il est où? Eh bien, le problème, il est dans ces fauteurs de troubles, dans ces certains que Paul nomme jamais, mais avec lesquels il est quand même très sévère. Je rassemble des éléments principaux de tout ce qu'il dit. Il dit que Paul, que les certains, les agitateurs, troublent. Ils veulent subvertir l'évangile. Ils ensorcellent, ils fascinent. Ils veulent détacher de Paul, attirer le zèle sur eux, entraver une route, une course qui partait bien, éloigner la vérité, troubler encore, soulever, pousser à la révolte. Ils veulent faire bonne figure, obliger à la circoncision, ne pas être persécutés, se vanter dans la chair des Galates. Vous voyez que dans tout cela, il n'est pas tellement question du contenu, mais plutôt d'attitude humaine, spirituelle. On a l'impression qu'en obligeant la circoncision, en subvertissant l'évangile, en détachant les Galates de Paul, ils entravent une course qui partait bien, ils provoquent le trouble, ils provoquent peut-être même de la fascination, et les poussent même à la révolte. Approfondissons. En fait, ils détruisent l'Église. Même si Paul ne le dit jamais explicitement, c'est bien cela. Ils changent l'Évangile. Or, l'Évangile, c'est la raison d'être, c'est le cœur de l'Église. Ils abîment les relations. Détachés de Paul pour attirer à soi. Ils instrumentalisent ces relations, puisqu'ils veulent qu'ils soient circoncis pour eux-mêmes, pour leur gloire. Et puis eux-mêmes, dans leur ego, ne sont pas au clair. Ils veulent faire bonne figure. Ils veulent trouver un motif d'orgueil, de reconnaissance de gloire chez autrui. Bref, l'Église, dans son principe constitutif, relationnel, personnel, est complètement abîmée. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'on sent qu'une volonté pervertie s'infiltre peu à peu et peut faire gonfler toute la pâte. Regardons le verbe de volonté, le verbe vouloir. Dans la première apostrophe, Paul parle de la volonté des agitateurs, de ces certains. Ils veulent subvertir l'évangile du Christ. Dans le deuxième blâme, la deuxième apostrophe, Paul interroge. Seulement cela, dit-il, je veux apprendre de vous. Donc Paul aussi a une volonté à l'égard des Galates. Mais ce n'est pas la même chose, c'est juste une question rhétorique qui veut les aider à aller au fond d'eux-mêmes. Dans la troisième interpellation, Paul, cette fois-ci, parle de la volonté des Galates. Les Galates veulent servir à nouveau des éléments pauvres et sans force. Au fond, cette volonté des agitateurs que Paul essaye de contrer semble devenir la volonté même des Galates. Et ça, c'est terrible. C'est plus seulement les agitateurs qui veulent, c'est les Galates eux-mêmes qui veulent servir en esclavage des éléments pauvres et sans force, des jours, de la circoncision, etc. Bref, on sent un processus de contamination. Il faut réfléchir à ça. Comment certains peuvent troubler la pâte tout entière? Et puis on l'a vu, ils sont centrés sur eux-mêmes. C'est quoi leur motivation? Attirer le zèle sur eux, faire bonne figure, fuir la persécution, au fond le confort, trouver un motif d'orgueil, de reconnaissance dans la chair circoncise des Galates. On pourrait même, si on creuse un petit peu, y voir quelque chose qui apparaît de manière pas directe, subtile, mais la fièvre de l'envie. C'est une thématique discrète dans cette épître, mais importante. Je le relève à deux mots. Le premier, c'est un verbe original, rare, le verbe fasciner. Hein, oh Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné. Ce verbe essaye de préciser le trouble qui est survenu dans les Galates. Ce trouble, on le voit, c'est pas un trouble intellectuel. La fascination, c'est pas intellectuel. C'est un genre de trouble qui vous envahit lorsqu'un regard envieux se pose sur vous. Jusqu'à présent, vous étiez paisible, vous aviez vos dons spirituels et tout allait bien. Et tout d'un coup, un regard d'envie se pose sur vous et vous commencez à être inquiet. Vous devenez une proie pour un autre. Et puis, vous-même, vous commencez à dire « Mais moi, est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Est-ce qu'il ne ferait pas ceci, cela ?» Bref, ce trouble de la fascination. Un petit peu comme celui qu'a produit le serpent sur Ève. On sait que ce sont les serpents qui fascinent. Et du coup, il y a cette histoire de zèle de jalousie. Il y a un bon zèle, dit saint Paul, mais aussi un mauvais zèle. Finalement, ils sont poussés à la révolte. C'est terrible, cela. Là, on voit aussi que c'est le poison de l'envie qui pousse à la révolte. Bref, ce qui est décrit, c'est sans doute la contagion de l'envie qui crée un regard de suspicion entre les personnes. Le bien, dont on peut jouir au début paisiblement, devient un cadeau empoisonné, car les regards envieux se posent sur nous. Un regard fasciné par ce qui nous manque. Bref, on sent une perversion très grave, un effet de contagion, une perte de discernement, ils ne savent plus le rapport entre ce qu'ils ont commencé ou ils veulent achever, un mélange aussi d'affectif et de théologique. Ça, c'est très grave. Et malheureusement, on a pu en mesurer les effets pervers et dévastateurs dans certaines affaires récentes dans l'Église. Voyez, on ne sait pas si la crise Galate est une crise théologique. Passer d'un évangile de la grâce à quand même il faut respecter la loi, de la foi aux œuvres. Ou au fond, si c'est plutôt une crise affective, une crise d'ego, une crise de reconnaissance. En fait, les deux se mêlent. Et c'est vraiment ça qui est terrible. Alors on comprend la virulence de Paul. Et on peut alors se poser deux questions. Comment se détourner de la fascination? Et comment redonner de l'élan spirituel lorsque la croissance patine, lorsque la croissance tombe dans une ornière charnelle? Alors voilà ce qui se passe en Galatie, voilà sur quoi il nous faut réfléchir. Pour cela, je vous propose trois questions. La première, c'est, au fond, dans les discours sur l'Église, que je peux entendre, ou dans des discours à l'intérieur de l'Église, qu'est-ce qui me trouble? Car il y a un trouble en Galatie. Qu'est-ce qui me trouble? Et pourquoi? Est-ce que je ressens, moi aussi, une tentation de l'essoufflement par rapport au temps de ma conversion, au temps de mon ardeur de jeunesse? Et puis, enfin, peut-être une note plus d'espérance au terme de ces deux rencontres d'analyse de crise, celle de Corinthe et celle de Galatie, de ces deux chapitres de diagnostic, pourrait-on dire. Quel rêve pour l'Église est en train de monter en moi? Qu'est-ce que je vois qu'il faut vraiment changer autour de moi, en moi? Et qu'est-ce que je veux changer? Avec ces questions, je pense que nous serons prêts à accueillir la prochaine fois la puissance, la folie, en même temps que la sagesse de la croix. À très bientôt.